Tu tournais le coin de la rue lorsque je t'ai vu. Il pleut. Cela ne met pas à son avantage quand il pleut sur les cheveux et les fringues. Mais quand même, j'ai osé. Et maintenant qu'on est là, que je ne veux pas me regarder, il faudrait que je me sèche, retourner là en bas, me remettre en état. Les cheveux tout au moins pour ne pas être malade. Alors je suis descendu tout à l'heure, voir s'il était possible de se remettre en état. Mais en bas sont les cons qui stationnent, tout le temps de se sécher les cheveux, ils ne bougent pas, ils restent en attroupement, ils guettent dans le dos. Et je suis remonté. Juste le temps de pisser.
Bonjour, vous êtes bien sur le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct sur Radio Canu. Avec nous dans le studio, Alain Besset, bonjour.
Bonjour.
Alain, tu diriges le Choc Théâtre à Saint-Étienne.
Effectivement, oui.
Et tu as créé une compagnie en même temps que le Choc, ou pas?
Non, j'ai d'abord créé une compagnie à Saint-Étienne, il y a 30 ans. Et puis ensuite, au fil des années, on a eu différentes petites aventures. On a eu un premier théâtre au bout d'une dizaine d'années en centre-ville qui s'appelait le Théâtre du Risque. Et puis ensuite, pour diverses raisons, on a cessé cette activité. Et on a retrouvé un lieu, une ancienne usine, dans un autre quartier à Saint-Étienne, le quartier Saint-François. Et là, maintenant, on y est implanté depuis 14 ans, je crois, ou 15 ans.
Donc le Choc Théâtre.
Le Choc Théâtre. On travaille avec un autre théâtre qui s'appelle le Théâtre du Verseau. Et notre entité a été identifiée sous le nom de La Ruelle. On représente un petit peu le pôle du théâtre indépendant stéphanois. Mais sans rester stéphanois.
Aujourd'hui, nous avons une émission consacrée à Bernard-Marie Koltès. On va en fait boucler la boucle, puisqu'on avait démarré la saison numéro 3 du Théâtre de la Gamelle avec une pièce de Koltès qui s'appelle Key West. Et en fait, on t'a invité aujourd'hui parce que t'as monté toi-même et t'as joué en fait dans beaucoup des pièces de Koltès. Et juste avant en fait de démarrer l'émission, tu nous as lu un très court extrait du tout début de l'œuvre de la pièce La nuit juste avant les forêts.
Voilà.
C'est une pièce qui a été écrite à quelle période ?
C'est une pièce qui est une des premières pièces de Bernard-Marie Koltès dans son répertoire. Il l'a écrit, il était tout jeune, il était encore au Théâtre National de Strasbourg en études, et il a présenté cette pièce au Festival d'Avignon, je crois qu'on a regardé tout à l'heure, en 77.
77, ouais, c'est ça.
Donc voilà, et à l'époque, c'est un de ses camarades de classe, Yves Ferry, qui interprétait le rôle. Ensuite, c'est Moni Greco qui a repris la mise en scène. Et donc voilà, c'est le monologue, un des monologues les plus connus de Bernard-Marie Koltès, mais il me semble que c'est quand même un point fort de son œuvre. Donc, on est aux limites du théâtre puisqu'on est dans le monologue, hein. Mais je crois que là, on a quelque chose qui est un peu le fondement de son écriture, enfin, la solitude, quoi. Donc, thème qui est récurrent dans ses pièces.
C'est la question de la solitude, et puis tu disais, tu l'as redit un peu, mais tout à l'heure tu disais, avec Koltès, on est toujours au bord du théâtre. Est-ce que du coup, au niveau de son écriture, il y a quelque chose qui va revenir plus tard ?
On trouve ça dans la solitude des Champs de Coton, qui est peut-être plus deux monologues enchevêtrés, entrecroisés, qui se percutent, qu'un véritable dialogue, mais qui devient un dialogue. Ça, c'est magique, hein, Koltès. C'est peut-être un des auteurs les plus difficiles à jouer, parce que son écriture est simple. Et si on veut toucher à sa poésie sans l'esquinter, il faut arriver à parler le texte. C'est pas évident.
dans la nuit juste avant les forêts. La difficulté aussi, c'est que c'est un texte sans ponctuation.
Alors oui, c'est une bizarrerie. Enfin, c'est un flot de paroles, d'auto-paroles, d'une parole. Et donc, Coltès a écrit ce texte sans ponctuation, enfin, c'est-à-dire sans point. Donc, c'est une longue phrase de 60 pages. Donc, il y a des respirations qui sont données par des virgules, mais c'est un monologue qui laisse une liberté totale à celui qui l'appréhende, puisqu'il va falloir à soi-même de le faire respirer, quoi, ou mettre les points et ne pas se tromper. Il y a peut-être d'ailleurs, c'est pas une question de se tromper d'ailleurs, après c'est. Mais ça laisse une liberté d'interprétation au maximum.
Qui est très large, et notamment justement sur la signification de quoi ça parle. Moi, je pensais que c'était un texte, en fait, donc encore sur l'incommunicabilité, parce que c'est un des thèmes majeurs de Coltès, la solitude. Moi, je pensais qu'il s'adressait à quelqu'un, et en fait, c'est possible qu'en fait, tu disais qu'il se parlait.
Nous, on n'a pas abordé la chose. On a abordé la chose encore. On est allé au bout de l'incommunicabilité. C'est-à-dire, nous, on a estimé que ce personnage, il s'inventait quelqu'un. Et donc, il parle seul, mais il est persuadé qu'il parle à quelqu'un. Donc, le texte démarre comme vous l'avez entendu il y a quelques minutes, hein, et il s'adresse, il dit tu tournais le coin de la rue lorsque je t'ai vu, mais il est tellement au bout de sa solitude, et ben je crois que c'est une espèce d'hallucination, il a besoin d'évacuer, et il va, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de point, parce que c'est un jet continu, un flot de paroles, mais non pas d'incohérence. Et il va aller, il va balancer des choses, parce qu'il veut, il s'invente même le fait, c'est ça qui est génial quand on l'aborde comme ça, qu'on se dit qu'il parle vraiment tout seul, c'est qu'il s'invente même le fait que l'autre s'en va, et il, à plusieurs reprises, il est obligé de lui dire, mais non, mais reste, j'ai pas besoin de cigarette, hein, je fume même pas. Alors au début, il lui demande une cigarette, et puis au bout d'un moment, donc, il est tellement au fond de sa solitude, il imagine même que les gens ne veulent pas l'aborder, puisqu'à l'intérieur même de son imaginaire d'incommunication, il le vit. Et c'est à la fin du texte qu'on comprend qu'il s'est fait casser la figure. Il s'est fait casser la figure parce que je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui a de la difficulté à communiquer. Et lorsqu'il communique, il sait tellement plus faire, il sait pas faire, il se trompe toujours d'interlocuteur, et il va malheureusement toujours aller au fait qu'il va être agressé.
Il va être agressé,
là, on comprend,
être aussi discriminé, parce que dans un certain sens, cette société où on peut pas se parler quand on se connaît pas, quand on est étranger, quand on est seul dans une ville qu'on connaît personne et qu'on a envie de parler, on est forcément rejeté dans cette société.
Voilà, donc un des textes qui me semble les plus forts de Coltès, et qu'il a écrit très très jeune.
Donc toi, c'est un texte dans lequel tu as joué, tu as été mis en scène par Jean-Pierre Bourredon, tu peux nous en parler ?
Donc oui, c'est tout à fait paradoxal, mais enfin non, parce que le théâtre est une affaire de rencontre. Là, on parle d'incommunicabilité, mais c'est par la rencontre qu'on a voulu parler d'incommunicabilité. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est peut-être pas un paradoxe. Et donc, du coup, oui, je jouais Artaud, et Bourredon jouait Tournier, Michel Tournier, le fétichiste, et moi, je jouais une adaptation que j'avais faite de « Pour en finir avec le jugement de Dieu » d'Antonin Artaud. On était dans un théâtre à Avignon, et on a été séduits l'un par l'autre. Non pas par des histoires de nombrilisme ou de moi démesuré, Mais j'appréciais énormément ce qu'il faisait sur scène. Je suis allé le voir plusieurs fois jouer et vice-versa. Et puis au retour d'Avignon, on a gardé contact et je cherchais un monologue. Je voulais jouer seul en scène. Il m'avait dans ce Artaud, nous étions trois sur scène. J'avais jamais joué seul en scène. Et j'avais vraiment envie de m'y frotter. Ça me semblait essentiel. Et je l'appelle et je lui dis, voilà, Jean-Pierre, lui était seul sur scène, donc je savais que, et puis, il avait plus de bouteilles que moi, il a une dizaine d'années de plus que moi, donc il avait pas mal de créations derrière lui, et donc je me suis dit, tiens, je vais m'adresser à lui, qui joue un monologue, qui a de l'expérience, pour lui demander s'il aurait une idée de texte. Il me dit, t'as déjà lu Coltès, Lis la nuit juste avant les forêts, procure-toi ce texte. Et donc, lui est à Toulouse, moi je suis à Saint-Étienne.
Et toi, tu connaissais pas du tout Coltès ?
Non. Et je vais chercher le bouquin, et à la première lecture, j'ai été foudroyé, c'est le terme. Et j'ai dit, il faut que je joue ce texte. Et je le rappelle, en lui disant, bah écoute Jean-Pierre, merci beaucoup. Je vais monter la nuit juste avant les forêts, et là, il me dit, non, je te l'interdis, qu'à une seule condition, c'est moi qui te mets en scène, parce que quand je t'ai vu, c'est la première pensée que j'ai eue, tu m'as fait penser à ce personnage, et maintenant, bah, que t'as pris la décision de vouloir jouer, ben, c'est moi qui vais te mettre en scène, si tu veux bien, alors. J'étais heureux comme un pape. Hein. Oui, qu'on parle d'Avignon. Et donc du coup, et ben ça s'est fait comme ça. Et lui, ce qui est, lui sortait d'une mauvaise expérience parce qu'il venait de le jouer. Il avait estimé que c'était catastrophique parce que il avait peut-être été mal dirigé, mais il estimait également que il correspondait pas à ce personnage-là et il était passé à côté de quelque chose qu'il avait envie de ne pas passer à côté avec moi. Ça a été une sacrée rencontre et une sacrée expérience parce que j'ai souffert. Hein. Il m'a vraiment emmené au bout de la solitude du personnage. Ça n'a pas été qu'une partie de plaisir. Après, il faut que ça en soit. Hein. On n'est pas là en thérapie ni en séance de torture, mais de toute façon, tout personnage dans les pièces de Coltès sont pas anodins, même si ce sont des ratés, justement, ce sont toutes de grandes pièces.
Avant qu'on fasse une petite première pause musicale, juste ce texte, tu l'as joué presque 400 fois depuis 20 ans ?
Oui, au moins, oui.
Ouais, c'est quand même... J'aimerais bien qu'on puisse vivre ce genre d'expérience, nous autres. On fait une première pause musicale et puis on va continuer à parler de l'œuvre de Coltès. entendre Solitude de Billie Holiday. Florent Fichot est à la technique avec nous. Donc nous sommes sur Radio Canu, le théâtre de la Gamelle. Nous invitons Alain Besset, directeur du Choc Théâtre, pour nous parler de Bernard-Marie Koltès. Et on parlait là en off pendant que vous écoutiez la musique du décor en fait de La Nuit juste avant les forêts et de comment en fait on peut s'encombrer d'un décor très réaliste, aller dans le naturalisme, faire tous les détails et puis en gros s'empêcher des possibilités de jeu au final.
De jeu, oui, c'est ce que je vous disais, parce qu'au départ on était parti, c'était loin d'être une mauvaise idée. Hein. D'ailleurs, après j'ai monté La Solitude des Champs de Coton et l'action se situe également dans un parking. Et là, on était parti sur cette idée de parking et donc ça a fait qu'on est parti sur des décors. Par souci de réalisme, et donc on est allé jusqu'à avoir une demi-voiture en fond de scène, etc., etc. Et donc, en définitive, c'est le décor nous empêchait de diffuser le spectacle. Tout de suite, il y a transport de décor, camion, manipulation, etc. Pour Avignon, ça avait été quelque chose hein, aussi. On avait joué cette forme-là à Avignon, donc descendre, monter la bagnole, la demi-bagnole, chaque fois sur scène, la redescendre, etc. Et puis petit à petit, on a changé, on a éclaté la chose, et du coup, le décor maintenant, c'est un anti-décor, quoi. Je joue tel que les choses se présentent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en train de se réfugier, donc il rentre quelque part et ce quelque part me suffit. Et à moi trouver mes appuis dans ce quelque part, mais à interpréter l'essentiel, c'est-à-dire le texte et faire vivre ce personnage.
J'aimerais qu'on parle à présent en fait d'un autre thème qui est vraiment présent chez Koltès. C'est la question en fait du moment où tout peut basculer et où, en fait, entre deux personnages qui se rencontrent, ou plusieurs, il y a cette minute un peu cruciale qui fait que tout peut vraiment devenir dramatique et violent. Et on parlait tout à l'heure de Bruce Lee et du kung-fu. Oui, je crois qu'il y a un texte que tu voulais nous lire.
Ça, il y a peu de gens qui le savent, enfin peu de gens qui le savent, mais ce que je veux dire... Bernard-Marie Koltès était un fan de Bruce Lee et je crois que ça marque son œuvre et c'est loin d'être une histoire de fanatique fêlé. Donc, d'ailleurs, c'est un article qu'il a écrit à la sortie du film Le Dernier Dragon de Bruce Lee. Et qu'il avait soumis au cahier du cinéma, qui n'ont jamais publié, mais le texte existe tout de même.
Si tu peux nous lire un
juste
petit extrait,
ce serait super. Oui, le dernier film de Kung Fu. La première fois, je suis sorti du Dernier Dragon, ravi et excité, parce que j'aime bien les bons films de Kung Fu. La seconde fois que je l'ai vu, j'ai vu un film étrange sur les Noirs et les Chinois à New York. Et c'est une évidence dont j'aurais pu me rendre compte plus tôt, puisque dans l'immense salle bondée de la 42e rue où je l'avais vu, le public, moitié noir et moitié chinois, hurlait, applaudissait et se levait tous ensemble. La troisième fois, tranquillement, je me suis laissé éblouir par l'intelligence du montage. La quatrième, j'ai enfin compris que c'était un film sur les films de kung-fu. Et la cinquième fois, je suis sorti du cinéma inconsolable, parce que j'avais le sentiment qu'étant tout cela, le film de Kung Fu ne pourrait plus ignorer qu'on avait parlé de lui, qu'il en perdait sa virginité, et que, le genre n'étant peut-être pas viable hors de la virginité, Le Dernier Dragon serait peut-être le dernier film de Kung Fu. Donc, il avait cette fascination par le Kung Fu et Bruce Lee. Et donc, du coup, dans une de mes mises en scène, je reviens au sujet là, parce que, enfin, je vais faire une petite
digression.
Oui, c'est-à-dire que une fois que j'ai lu ce texte de La Nuit juste avant les forêts, ça a été une immersion totale dans l'écriture de Koltès et j'ai vraiment avalé un peu tout ce qu'il avait écrit, peut-être pas tout, mais beaucoup. et en quelques temps, quoi. Et j'ai tout de suite eu envie non seulement de continuer à interpréter le personnage de La Nuit juste avant les forêts, mais moi-même de mettre en scène d'autres textes, notamment j'ai toujours pas monté, j'espère que je monterai un jour Key West, mais je voulais absolument monter Combat de nègres et de chiens, ce que se trouve la pièce, une des pièces les plus fortes et plus théâtrales là de Koltès.
On en reviendra en dernière partie d'émission.
Mais en lisant tout ça, effectivement, hormis ce thème de la solitude, de l'incommunicabilité, il y a aussi cette chose qui revient dans tout et qui fait que l'œuvre de Koltès est puissante, enfin que les textes de Koltès sont puissants, les textes théâtre, enfin destinés au théâtre sont puissants parce que les personnages sont toujours dans cette on se parle ou on se tue. Donc j'ai appelé et je me suis amusé, entre guillemets amusé, à prendre des situations critiques comme ça dans chacune de ces pièces où il y a pas d'autre alternative. Soit on parle, soit on va se mettre sur la gueule. C'est souvent ça et ce qui fait le piment intelligent des pièces de Koltès. Oui, justement, on revient encore dans cette incommunication. Et donc j'ai pêché de ci de là dans Roberto Zucco, la scène de Zucco qui tue sa mère.
Donc ça c'est au tout début de la scène, voilà, en fait, au tout début de la pièce où il a tué sa mère.
Dans Combat nègre et de chien, Cal et Horn qui discutent de la disparition du corps du noir qui viennent de tuer. Et c'est là que des moments dans le spectacle, pour le rythme du spectacle, mais aussi pour appuyer le propos, qu'il y avait des scènes totalement muettes qui étaient exécutées par des karatékamans. Et donc, il y avait un combat fictif, mais qui se développait sur du tai chi chuan.
Et c'était les comédiens qui avaient les arts martiaux.
Non, j'ai engagé des professionnels. J'ai engagé des
tueurs professionnels.
J'ai engagé des professionnels, non, des gens qui ont complètement adhéré à la chose et qui ont très bien compris la place qu'ils prenaient et qui avaient. Ils sont très exigeants, les gens qui aiment le karaté. C'était des vrais pratiquants d'arts martiaux. C'était donc
une recherche de l'esthétique, du coup.
Exactement.
Ça se rapproche du
et
coup du théâtre.
Et puis une rigueur dans le combat parce qu'ils prenaient de sacrés risques et je les voyais sortir de scène. C'était de véritables comédiens qui ressortaient, qui disaient ouais mais là tu vois ça c'était magnifique et ça a fait un bel échange. On se parle ou on se tue. Ouais. Plus tard, j'ai pu enfin monter. Entre-temps, j'ai monté La Solitude dans les Champs de Coton. J'ai monté Tabataba, Roberto Zucco. Et puis Combat de nègres et de chiens, là, avec pas mal de moyens, et c'était bien parce que j'ai joué en extérieur, et j'ai joué au Musée de la Mine, en extérieur à Saint-Étienne, et on a pu vraiment faire voyager les gens en Afrique alors qu'on était au pied des terrils.
Et, c'est quoi les terrils?
C'est grosse colline de charbon, mais il y a le chevalement, c'est-à-dire on est dans un univers très industrialisé, donc ça rejoignait le caractère démesuré des chantiers européens en Afrique, ces ponts, ces grands ponts d'autoroute qu'on est en train de construire, donc le gigantesque. Ces choses gigantesques qui nous écrasent, donc là on avait un décor magnifique, quoi. Et tout en utilisant aussi un système, on avait volontairement au démarrage vidéographié des scènes, mais de très très près, et donc ça me permettait, c'était du du faux direct. C'était très pointu pour les comédiens. C'est-à-dire que on jouait des scènes, on était à 80 mètres du public, donc on est tout petit comme ça. Mais c'était, il y avait un écran très proche des spectateurs, comme si la caméra allait chercher en zoomant. Mais c'était du faux. Alors il fallait être synchro avec les images, mais ça a été une sacrée expérience aussi.
Donc plein air, je crois même j'ai vu un extrait où il y avait une voiture.
Ouais, on arrivait en bagnole.
Ouais,
on était en pleine Afrique, donc j'arrivais le colon dans toute son ampleur qui arrivait avec sa Jeep qui se garait. Donc oui, ça permet des choses. Hein. On est presque au cinéma. Enfin, c'était une belle expérience. Ouais.
On peut peut-être expliquer un peu.
Et un vrai feu d'artifice à la fin, quoi. Donc, ça, c'était magnifique.
On peut expliquer un peu à nos auditeurs Combat de Nègres et de Chiens, où ça se passe et de quoi ça parle.
Bah, c'est une histoire vraiment terrible. Hein. On a affaire à un ingénieur et son patron, directeur d'un gros chantier. De travaux publics, ils sont en train de construire des routes, des ponts. Le patron a décidé d'amener une jeune européenne parce qu'il veut se marier, qui connaît pas du tout l'Afrique. Il l'a trouvée dans un hôtel à Paris. Elle était femme de ménage. Il lui a proposé l'aventure, donc elle l'a suivie, mais elle est totalement innocente et elle met les pieds à un moment dramatique où l'ingénieur, qui est alcoolique, raciste, enfin, vient de tuer un ouvrier noir sur le chantier et a voulu faire disparaître le corps en jetant dans les égouts et il a peur qu'on retrouve le corps, qu'on soit accusé, donc il est allé gratter dans les égouts pour retrouver le corps, il n'a pas retrouvé le corps, et on arrive au moment où il y a le frère de cet ouvrier qui a été assassiné, qui lui ne le sait pas qu'il a été assassiné, on veut lui faire croire que c'était un accident. Il vient réclamer le corps parce qu'il a besoin du corps pour faire le deuil,
célébrer pour les funérailles
et faire le deuil. Et donc... ça va devenir totalement fou, quoi, parce que l'ingénieur est prêt, lui, à tuer aussi
le frère
pour faire disparaître toute trace. Et donc, c'est une pièce magnifique. Hein, et on s'aperçoit que là, il est complètement fou. Il est attiré aussi par cette jeune fille qui vient d'arriver, et ce qui est magnifique dans la pièce, c'est que le jeune noir qui vient chercher le corps de son frère va pouvoir communiquer lui avec cette jeune fille blanche qui est totalement perdue et qui vient de voir qu'elle a mis les pieds en enfer, mais du fait des deux blancs. Et elle va, elle, pouvoir communiquer avec le noir.
Le jeune Horn.
Et elle va se sacrifier parce qu'elle comprend ce qui va se passer. Elle va se sacrifier pour ce jeune noir. Elle va se mutiler parce qu'elle tombe éperdument amoureuse et lui aussi. Hein. Il y a tout ça de mélangé. C'est une pièce. J'en ai les frissons d'en parler parce que c'est une pièce magnifique.
On va faire une deuxième petite pause avant de revenir à tout ça, on va écouter The Clash.
Mathilde, ma sœur, te voici de nouveau dans notre bonne ville. Es-tu venue avec de bonnes intentions? Car maintenant que l'âge nous a calmé un peu, on pourrait tâcher de ne pas nous chamailler pendant le court temps de ton séjour. J'ai pris l'habitude de ne plus me chamailler pendant les 15 années de ton absence, et ce serait dur de s'y remettre.
Adrien, mon frère, mes intentions sont excellentes. Et si l'âge t'a calmé, j'en suis très contente. Les choses seront plus simples pour le très long temps que je compte passer ici. Car moi, l'âge, au lieu de me calmer, m'a beaucoup énervée. Et entre ton calme et mon énervement, tout devrait bien se passer.
Tu as voulu fuir la guerre et tout naturellement, tu es venu vers la maison où sont tes racines. Tu as bien fait. La guerre sera bientôt finie et bientôt tu pourras retourner en Algérie, au bon soleil de l'Algérie. Et ce temps d'incertitude dans lequel nous sommes tous, tu l'auras traversé ici, dans la sécurité de cette maison.
Mes racines? Quelles racines? Je ne suis pas une salade, j'ai des pieds. Ils sont pas faits pour s'enfoncer dans le sol. Quant à cette guerre-là, mon cher Adrien, je m'en fiche. Je ne fuis aucune guerre. Je viens au contraire la porter ici, dans cette bonne ville où j'ai quelques vieux comptes à régler. Et si j'ai mis si longtemps à venir régler ici ces quelques comptes, c'est que trop de malheurs m'avaient rendue douce. Tandis qu'après 15 années sans malheur, les souvenirs me sont revenus, et la rancune, et le visage de mes ennemis. On vient d'écouter un extrait du Retour au désert de Bernard Marie Coltès pour aborder ces questions en fait, de l'incommunicabilité, de la violence, du moment en fait, où tout peut péter, tout peut partir très vite en affrontement physique en fait.
Oui, oui, bah, c'est pas anodin que d'ailleurs ça a été fortement décrié, ça fait polémique, hein, cette volonté d'avoir écrit autour du criminel parricide Roberto Zucco. Donc ça avait fait polémique, écrire une pièce de théâtre autour de l'assassin le plus redouté, considéré le plus odieux, qui a tué père et mère, qui tue des flics. Il y avait une grosse contestation, parce que en plus la pièce devait être jouée près d'où il y avait eu l'assassinat commis envers la police. Je ne sais plus si c'était Chambéry.
Je crois que c'est Chambéry ou Grenoble. Ouais.
Ou Grenoble. Et donc, et je comprends aussi qu'il y a des gens qui ont pu être bousculés.
Je crois que ça a été censuré, justement, les représentations
oui,
de Roberto Zucco.
Ça a été ils ont été annulés. Enfin, ça fait ce qu'on peut un peu comprendre, mais. Coltès ne faisait pas du tout, ne fait pas à travers cette pièce l'apologie du crime. Il part de ce fait de société qui est dramatique et qui est quand même plus que symbolique pour en parler, mais il n'y a pas une volonté de prendre parti, défendre le bien ou le mal. Enfin, c'est pas ça. C'est exposer un état de fait et puis aller et voir. Également, et c'est ce qui choque, mais voir toute l'innocence également qu'il peut y avoir à l'intérieur du personnage de Zucco. Alors, ça peut offusquer, mais si tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et si on se masque la face, c'est là qu'on comprend plus rien, qu'on sait savoir aussi. Quand les assassins sont au pouvoir, on accepte bien leurs crimes, hein, on se posait pas de questions sous le Troisième Reich, on se posait pas de questions, on se pose des questions une fois qu'ils sont déchus, on dit ah ouais, c'est ça l'assassin. Donc moi je trouve, il y a une phrase, je vais essayer de la retrouver là pendant que je parle, mais il fait dire à Zucco, c'est merveilleux ce qu'il fait dire à Zucco à un moment, c'est d'une poésie. Alors oui, je voulais rebondir là-dessus, c'est que bien sûr que pourquoi Coltès nous touche autant, c'est qu'il nous parle de faits de société qui sont plus qu'importants et qu'il faut essayer de résorber, je sais pas comment dire, mais cette putain de solitude qu'on a tous à cause de l'incommunicabilité, mais il reste un grand écrivain, un grand auteur de théâtre, parce qu'il y a injecté la poésie. Il y a rarement au théâtre, à l'intérieur de ses textes, il y a cette poésie qui est essentielle. Et c'est ce qui fait qu'on apprécie Koltès et ce qui fait la puissance de son écriture. Il y a bien sûr, heureusement, la notion de désespoir que ça, ce désespoir, ça peut engendrer les pièces de Koltès. Elles sont contrebalancées aussi par la poésie qu'il y a pour en parler. Et pour moi, la poésie est aussi importante que le thème du désespoir. C'est pas un auteur noir qui veut nous tirer, enfin, qui veut nous faire sombrer.
Ça ne sonne pas dans le pathos, mais voilà. En tous les cas, moi, ce que je trouve qui est particulier dans cette œuvre de Koltès, c'est le fait qu'on s'est toujours raccroché en fait, au présent, à un contexte, à une histoire qui n'est pas fictive, mais il va placer, par exemple, l'action de sa pièce en Afrique, à l'heure du post-colonialisme, dont il va dénoncer petit à petit. L'emprise, ou alors dans le contexte de la guerre d'Algérie. C'est pas un auteur qui va inventer un monde ou qui va enlever.
Bien sûr, parce qu'il sert de son propre parcours, enfin, à mon avis. Hein, c'est-à-dire, il a beaucoup voyagé, Koltès, très jeune et avec peu de moyens, mais il a su voyager. Il est allé en Afrique, il a beaucoup séjourné à New York. Et quand il parle de choses, il les connaît. Et c'est pour ça, je l'ai oublié malheureusement, mais il écrit, et ça m'a servi de fil conducteur dans cette histoire de « On se parle ou on se tue », il écrit une longue lettre à Hervé Gignoux, qui est le directeur du Théâtre National de Strasbourg à l'époque, et il lui explique ce qui l'entoure et comment il est écœuré.
Par l'Afrique ?
Par le colonialisme, par ce qui se passe en Afrique. Et d'où naît la pièce Combat de nègres et de chiens. Moi, il me séduit, il arrive, et puis il a des tournures de phrases. Qui sont la poésie, quoi. Il arrive à faire dire à Zuko, ce criminel, il arrive à lui faire dire je connais des coins en Afrique, des montagnes tellement hautes qu'il y neige tout le temps. Personne ne sait qu'il neige en Afrique. Moi, c'est ce que je préfère au monde. La neige en Afrique qui tombe sur les lacs gelés. Donc, il nous fait évader un poète.
Pour revenir aussi à cette question en fait, du malheur contemporain en fait, qu'il arrive à saisir dans ses écrits, on le disait tout à l'heure en off, mais Koltès, il a écrit dans les années, fin des années 70, 80, c'est des années en fait, où il y a des mondes qui s'effondrent, il y a des espoirs de révolution qui s'arrêtent, et du coup il y a juste ce capitalisme sauvage qui est là et qui fait que les individus se sentent des fois terriblement laissés à eux-mêmes, peut-être livrés à eux-mêmes.
Oui, et puis je crois que sa vie elle-même, à lui, c'est une vie de solitude quand même. C'est quelqu'un qui a été très peu médiatisé, c'est quelqu'un de sauvage, hein. On le voit pas beaucoup, il vit beaucoup dans les petits hôtels. C'est quelqu'un qui, parce que commençait à avoir une certaine, il a eu reconnaissance de son écriture, de son vivant. Il a été monté par un des plus grands metteurs en scène de l'époque, tout de même, enfin, Chéreau. Donc, mais il n'était pas attiré du tout par. Je crois que les médias lui faisaient peur, et peut-être même autant il avait une passion pour le théâtre, mais autant le monde du théâtre pouvait l'effrayer. C'était quelqu'un de discret.
Le monde du théâtre est assez effrayant, disons-le. Est-ce que tu aurais envie encore de jouer Coltès aujourd'hui, de monter Coltès ou de...
Oui, je pense que j'ai vraiment le désir de monter Key West. Je sais pas. Je prends encore mon temps. J'ai pas trouvé le lieu, parce que je veux pas jouer. Hein. Je veux jouer comme au Combat de Nègre et de Chien. Je veux le jouer en extérieur. Je veux pas le jouer à l'intérieur d'un théâtre. Donc ça, je le ferai dans les années qui viennent. C'est sûr.
C'est vrai que le décor des Key West, c'est un entrepôt, oui. Un grand entrepôt, voilà. Immense.
Donc à Saint-Étienne, il y a de quoi faire. Hein.
Ouais. Il y a de la friche.
Donc voilà, ça c'est une de mes perspectives. Et puis, moi, je passe le message, on ne sait jamais. Enfin, moi, je suis prêt à jouer encore des personnages à l'intérieur des pièces de Coltès pour ceux que ça intéresse. S'il y a des gens qui montent du Coltès, qui n'hésitent pas à m'appeler.
Alors, Florent nous fait passer un petit texte. Ah, Florent a trouvé une lettre de Coltès. Est-ce que c'est la lettre d'Afrique en question ?
Oui. Alors, je ne sais pas si c'est... Il en a peut-être écrit plusieurs, mais c'est bien ça de... Awada. Voilà, camarade, c'est bien celle-ci. Camarade, il m'arrive de craindre une vraie fatalité de l'histoire sur les destins individuels. Suffit-il d'une opinion intellectuelle, même doublée de militantisme, pour que son propre destin soit changé ? Ou suffit-il d'être communiste pour être dans le camp révolutionnaire ? Elle démarre comme ça, vous voyez. Et donc, c'est une... longue lettre que je vous conseille.
Donc là, vous pouvez trouver dans un... C'est édité par les éditions de Minuit, il s'appelle Lettre.
Voilà, bah merci. Oula, quelle efficacité. Oui, donc cette longue lettre m'avait servi de fil conducteur au spectacle, parce que là, il parle vraiment... vraiment de politique, la politique de ces années-là, en 78, comment, bien sûr on imagine bien que ça se poursuit encore, mais comment les Européens, la civilisation dite blanche se comporte en Afrique.
Et alors, du coup, sans transition, l'actualité d'Alain Besset, c'est aussi actuellement Henry Miller. Il nous reste 5 minutes pour peut-être en parler.
Donc, c'est mon prochain spectacle qui verra le jour en octobre.
Que tu vas créer au Choc.
La première se fera au Centre culturel de l'Orme. Mais il n'y a qu'une seule représentation. Ils ont la primeur de la première. Mmh. Et ensuite, on amènera le spectacle sur le Choc Théâtre la semaine suivante. Toute la semaine du 12 octobre au 20 octobre.
Et ça, Miller, ça aussi, tu me le disais quand on s'est rencontrés tout à l'heure, c'est une écriture que tu apprécies depuis de longues années.
Oui, qui me nourrit, je dirais. Donc, j'avais découvert Miller, j'avais une vingtaine d'années, enfin, j'avais 18 ans. Et les tropiques, hein, tropique du cancer, tropique du capricorne, sexus, plexus, nexus. Et j'ai beaucoup lu Miller, et je trouve que c'est une écriture riche, qui a sa particularité, bien sûr. Il est très prolixe, c'est un diesel, il faut beaucoup de phrases, mais je trouve ça vraiment philosophique et loin d'être pornographique, quoi. Parce qu'on l'a condamné pour ça, et je veux montrer à travers mon spectacle justement que c'est un alibi, que s'il a été aussi longtemps interdit d'édition, notamment aux États-Unis alors qu'il est américain, on a prétexté le caractère obscène de son œuvre alors qu'elle ne l'est pas du tout, mais ça servait bien à ce que des livres tels que Le Cauchemar climatisé, qui veut bien dire le titre, veut bien dire ce qu'il veut dire, ne soit pas édité aux États-Unis. Donc lui, c'est un auteur, c'est assez fou. Il aura attendu, il a été édité, il avait 45 ans. Il a été édité en France et non pas là-bas. Hein. Et pour vivre, il aura attendu l'âge de 60 ans pour enfin arriver à vivre de ses livres.
Donc on pourra découvrir ton spectacle et j'imagine un panoptique de plusieurs de ces
textes. Oui, j'ai tiré de différentes œuvres de Miller, notamment aussi d'Anaïs Nin, qui a été quand même sa maîtresse et qui a beaucoup fait pour qu'il puisse être enfin édité. Et le fil conducteur, c'est un livre qui s'appelle Ultime Entretien, c'est les derniers entretiens qui ont été recueillis par Pascal Vrébos, auteur belge, journaliste, etc. Et qui sera présent le 19 octobre, qui va venir. Je l'ai rencontré, là, il a bien voulu me rencontrer parce qu'elle a été séduite par l'adaptation. Donc, j'ai rencontré il y a quelques semaines en Belgique et il va venir pour une représentation. Et le lendemain, il y aura une rencontre publique au Méliès dans le cadre de la fête du livre à Saint-Étienne à 14h où il parlera de sa rencontre avec Henri Miller.
Et ben on essaiera de venir et de faire une petite chronique du théâtre de la Gamelle parce que Saint-Étienne, c'est à côté. Donc, on se fera un plaisir de venir découvrir ton travail et d'en parler. Pour la saison prochaine. C'est la fin de l'émission et la fin de l'année du Théâtre de la Gamelle de la saison 3. L'année prochaine, saison 4. Je ne vous dévoile rien du programme, mais je vous dis à l'année prochaine, entre guillemets, et bonnes vacances. Au revoir tout le monde.
Au revoir. Merci.